Bonjour à tous, Florence Sueur au micro, accompagnée de Philippe à la technique. Bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Vous pouvez toujours nous suivre bien sûr en FM 98.00, mais aussi en vidéo live via Facebook. Et puis, vous pourrez nous retrouver cette émission sur notre nouvelle plateforme bardeleconomie.fr. Alors, les thèmes du jour, eh bien, culture et numérique, qualité en entreprise, se faire aider pour lancer ses projets d'entreprise, et bien manier bien savoir manier Instagram. Tels sont les thèmes que nous allons aborder avec nos invités du jour, que je remercie d'être là pour qui brave cette pandémie. Dominique Roland, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général adjoint de la ville d'Anguin et le directeur de la culture et du Centre des Arts. Alors, les établissements recevant du public sont fermés, mais la culture numérique est subventionnée. On verra ensemble si vous avez fait appel au ministère de la Culture. Et puis, on verra aussi les idées de la ville d'Anguin pour se déployer en culture en phase confinement. À nos côtés, Pierre Giraud, bonjour.
Bonjour à chacune, chacun.
Vous êtes le président de France Qualité, mais pas que, vous êtes aussi le directeur de la qualité et de la coordination SMI chez Air France. Mais avec vous aujourd'hui, on vous fera parler en tant que président de France Qualité sur l'impact de la crise sur la qualité. Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs? Et puis, quelle qualité pour les entreprises? Est-ce qu'elle est mise à mal, notamment en TPE? Et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, la qualité pour les TPE? Parce qu'on imagine quand même que pour garder des clients, de toute façon, il faut une certaine qualité. À nos côtés, Milena Stojkovic, bonjour.
Bonjour Florence.
Vous êtes la directrice générale de IfStart, un accélérateur digital dans la structuration de projets, la recherche de compétences. Vous aidez aussi au financement et au développement à l'international. On en saura beaucoup plus, bien sûr, tout à l'heure. Et puis à nos côtés, nous aurons Steve Unponu qui fait des formations et accompagne les personnes pour se créer un revenu complémentaire grâce à leur propre marque et à une communauté sur Instagram. Il travaille sous la marque Black S Paris. Alors, comme d'habitude, on commence bien sûr par les infos du jour. Et la première, eh bien, c'est après 4 jours de suspense pour la première nation du monde. Joe Biden se prépare à devenir le 46e président des États-Unis. C'est l'annonce des grands médias américains samedi. Il aurait obtenu, d'après notre correspondant aux États-Unis, environ 75 millions de voix contre Trump, qui lui en a obtenu 70 millions. Mais ce qui compte est le plus grand nombre, bien sûr, de grands électeurs. Ce n'est pas du tout la même chose qu'en France. Alors Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, a franchi le seuil magique des 270 grands électeurs et met fin donc à une séquence politique incroyable qui a fracturé l'Amérique. Mais le plus surprenant est ce couple que forment Biden et Kamala Harris, qui ont obtenu donc les plus hauts scores en nombre de voix de tous les présidents américains. Du fait des recours en justice engagés par l'équipe de Trump, cela prendra encore au moins un mois pour avoir une déclaration officielle. La date de passation de pouvoir, par contre, elle, est inscrite dans la Constitution et ce sera le 20 janvier. D'ici là, les États certifieront leurs résultats et les 538 grands électeurs se réuniront en décembre pour formellement désigner leur président. Joe Biden promet d'être un président unificateur, celui de tous les Américains, de son fief de Wilmington au Delaware, appelant les Américains à ne plus traiter leurs opposants comme des ennemis, mais des supporters républicains refusent de s'avouer vaincus. Après avoir échoué en 88 et en 2008, puis hésité en 2016, il a débuté sa carrière politique nationale au Sénat il y a près de 50 ans et donc connaît évidemment parfaitement le fonctionnement de Washington. Salué par les dirigeants du monde entier, la chancelière allemande Angela Merkel, qui a entretenu des relations difficiles avec Donald Trump, a insisté sur la relation transatlantique irremplaçable. L'Union européenne a formé, elle, le vœu d'un partenariat solide avec les États-Unis. Covid-19, multilatéralisme, climat et commerce international sont des défis à affronter ensemble, a tweeté Monsieur Michel. Le premier ministre israélien qui souhaitait une victoire de Donald Trump pour sa politique très favorable envers l'État hébreu, a aussi félicité bien sûr Joe Biden, un grand ami d'Israël, espérant approfondir encore davantage l'alliance spéciale entre les deux pays. Le président afghan a souhaité un renforcement des liens entre Kaboul et Washington dans la lutte contre le terrorisme et le processus de paix, alors que Donald Trump a signé un accord avec les talibans qui entérine le départ des troupes américaines jugées par certains trop rapides. L'Iran a également appelé M. Biden à saisir une occasion de revenir sur la voie de l'adhésion aux engagements internationaux, Trump étant sorti, je vous rappelle, de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015 et ayant imposé des sanctions économiques contre l'Iran. Dans l'immédiat, le principal défi donc de Joe Biden est la pandémie du coronavirus qui a quand même causé 237 000 morts aux États-Unis. Et sa première annonce a d'ailleurs concerné ce sujet et la mise en place d'une cellule de crise. Mais ce qu'il faut souligner et ce que je voulais souligner, c'est la victoire de sa colistière Kamala Harris. Elle entre dans l'histoire avec un grand H, en devenant la première femme à accéder à la vice-présidente des États-Unis. Toute vêtue de blanc en hommage aux suffragettes, elle a affirmé samedi qu'elle ne serait pas la dernière, tout en rendant un vibrant hommage aussi aux générations de femmes qui ont ouvert la voie à son élection, a-t-elle dit. Elle a salué celles qui ont sacrifié tant pour l'égalité, la liberté et la justice pour tous, y compris les femmes noires qu'on regarde trop souvent de haut, je cite, mais qui si souvent prouvent qu'elles sont la colonne vertébrale de notre démocratie. Et puis, elle a rendu un hommage à sa mère, arrivée d'Inde aux États-Unis à l'âge de 19 ans, qui a milité pour les droits civiques et qui était une chercheuse spécialisée en cancer du sein. Elle est décédée donc en 2009. Voilà, Barack Obama également, 44e président américain, a salué bien sûr la victoire historique de son ami, pour qui il a fait campagne d'ailleurs. Et dans une Amérique profondément divisée face à un Sénat qui pourrait rester aux mains des républicains, eh bien Biden devra trouver le ton juste. Au total, malgré la pandémie, la participation a atteint un niveau record dans l'ère moderne, autour de 66% des électeurs ont voté selon le US Election Project. Alors, j'ai envie de demander à mes invités s'ils ont suivi ces élections américaines et ce qu'ils en ont pensé. Qui veut commencer ? Dominique Roland.
Oui, j'ai suivi attentivement et suivi même tard dans la nuit, avec ce décalage horaire, bien entendu, avec... Alors, ce qui est intéressant d'observer, c'est d'abord la participation. Parce que c'est une élection qui se fait avec une très forte participation, qui est historique d'ailleurs. L'autre élément, pour moi, qui est significatif, je vais pas interpréter le résultat de ces élections. C'est un résultat qui est peu contestable, semble-t-il. Simplement, c'est l'arrivée d'une femme pour la première fois à la vice-présidence des États-Unis. C'est un élément qui est historique, qui est marquant, et je crois qu'il marquera l'histoire, et c'est en même temps un progrès.
Merci beaucoup Dominique Roland. Pierre Giraud.
Il y a un autre élément que je trouve frappant autour de cette élection, c'est que très vite, le président élu a annoncé que l'une de ses premières décisions consisterait à faire revenir les États-Unis d'Amérique dans le cercle des signataires de l'accord de Paris. Et au moment où beaucoup de nations s'engagent contre le réchauffement climatique, pour la préservation de la planète, ça me semble être un bonus décisif.
Merci beaucoup Pierre Giraud. Autre information du jour, le gouvernement va prendre en charge les frais d'envoi des livres commandés auprès des librairies indépendantes pendant la durée du confinement afin de les aider à poursuivre leurs activités à travers la vente en ligne. Ce dispositif permettra aux librairies de ne facturer à leurs clients que les frais de port au tarif minimum légal, soit 1 centime d'euro. C'est ce qu'a précisé les ministres de l'économie et de la culture. Autre information du jour, la contraction de l'économie en France devrait être comprise entre 9 et 10% en 2020, a estimé le gouverneur de la Banque de France. Nous pensons aujourd'hui que sur l'ensemble de l'année, nous serons entre -9 et -10% de croissance, a-t-il déclaré, et nous publierons le chiffre précis à la mi-décembre, a-t-il ajouté. Le gouverneur de la Banque de France s'exprimait alors que l'institution vient de publier un point de conjoncture dans lequel elle estime que le deuxième confinement aura un impact de 12% sur le PIB. Autre information du jour, c'est la Société Générale qui confirme la suppression nette d'environ 644 postes en France, sans départ contraint, alors que la prévision était de 750. Et puis enfin, autre information, c'est le glyphosate, 7 millions pour accélérer la recherche sur les alternatives, annonce le ministre de l'Agriculture Julien de Normandie devant les parlementaires. La France s'est fixée pour objectif de sortir de l'essentiel des usages du glyphosate en 2021 avec une interdiction totale en 2023. Cette enveloppe vient s'ajouter au plan existant comme le plan Ecophyto de plus, qui vise à réduire de 50% les usages phytopharmaceutiques dans leur ensemble d'ici 2025. Hervé Durand est nommé chef de projet aux côtés du préfet Pierre-Étienne Biche, coordinateur interministériel du plan de sortie du glyphosate. Il aura la charge d'accompagner l'ensemble de cette transition de manière opérationnelle, a précisé le ministre. Et pourtant, bien sûr, le Parlement a donné son feu vert au retour des néonicotinoïdes il y a une dizaine de jours. Voilà, c'était les infos du jour. On va tout de suite faire une petite pause et puis on revient avec nos invités pour parler de notre premier sujet, culture et numérique.
Vous êtes sur IDFM, Radio Anguin, la radio du bien-être. The music don't stop.
Super entraînant pour cette première pause musicale, c'est un extrait de Levitating, le dernier titre de Dua Lipa, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors aujourd'hui, au bar de l'économie sur Radio IDFM, Anguin, nous parlons donc de culture et numérique, de qualité en entreprise, de bien savoir manier Instagram et de se faire aider pour lancer ses projets d'entreprise. Et à mes côtés, j'ai Pierre Giraud, président de France Qualité, Bina Stojkovic, directrice générale de Ifstar, et Yves Unponou, qui s'occupe bien sûr de nous bien faire connaître Instagram. Et puis Dominique Roland, vous êtes le directeur général adjoint de la ville d'Anguin, le directeur de la culture et du centre des arts. Alors, quelles idées de développement pour se déployer en culture pour Anguin-les-Bains? Et puis, avez-vous pu faire appel aux fameuses subventions? Est-ce que l'annonce de Roselyne Bachelot, notre ministre de la Culture, est suivie d'effets rapides?
Alors, je vais commencer par la dernière question, qui est un point important. Effectivement, nous avons été à la fois approchés et sollicités par le député de la circonscription dans ce sens, c'est-à-dire pour pouvoir bénéficier des compensations, c'est-à-dire de subventions, puisque nous avons été impactés très lourdement. On dit que la culture est un domaine un petit peu à part ou entièrement à part. En tous les cas, la culture est un domaine qui fait aussi partie de notre économie. Et sur ce plan-là, effectivement, nous attendons avec intérêt la décision qui sera prise, puisque nous avons évidemment, dans notre dossier, défendu à la fois cette compensation, c'est-à-dire d'activités qui ont été annulées, des artistes qui n'ont des contrats qui ont été tout simplement annulés, sinédiés, et d'autres reportés. Bon, dans les deux cas, ils sont pas reportés, puisque la programmation est arrêtée aujourd'hui. Et d'autre part, aussi, c'est aussi défendre le secteur d'activité par ces subventions. Donc nous attendons maintenant, évidemment, la réponse qui va nous être faite, mais le dossier est en cours. Ça, c'est le premier point.
Est-ce que vous avez une demande d'un montant particulier ou bien est-ce que les montants sont décidés par le ministère ?
Alors, les montants sont décidés par le ministère, comme vous le savez, comme nos auditeurs le savent. Le Centre des Arts est aujourd'hui un établissement d'intérêt national, art et création, et en particulier avec, disons, un label sur la création numérique. Donc, ce qui veut dire que, évidemment, nous sommes éligibles à plusieurs titres, sur la diffusion, c'est-à-dire ce qui a été déprogrammé ou annulé, également sur la création. Pourquoi ? Parce que un lieu comme le nôtre n'est pas un lieu, nous ne sommes plus ouverts actuellement au public, mais en même temps nous sommes un lieu dans lequel se produisent des artistes, c'est-à-dire travaillent en résidence. Donc ça ne veut pas dire que l'activité artistique s'arrête. Au contraire, nous avons un accompagnement, nous faisons un accompagnement d'artistes qui sont en création, c'est-à-dire qui se produiront peut-être dans 8 mois, 1 an, mais ce qui veut dire que l'activité artistique continue. Alors ça, c'est un point important. Donc nous sommes éligibles également sur la partie création.
Alors je rappelle que vous avez parlé du député de la circonscription, il s'agit de David Corsiero.
Exactement.
Et donc, continuons sur justement, quelles sont les idées de la ville d'Enghien pour se déployer en culture alors que les établissements sont fermés, que vous ne pouvez plus accueillir de public ? Comment faites-vous donc du coup ? Alors il reste, vous venez de l'évoquer, les artistes en résidence. Dans quel domaine accueillez-vous des artistes ? Qui sont-ils en ce moment et qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux ?
Alors actuellement, nous accueillons alors des artistes qui sont sous forme de conventionnement avec le ministère de la Culture, qui sont là, je dirais, pour 3 ans. Donc ça, c'est une première. Ces artistes sont d'abord un chorégraphe qui s'appelle Vincent Dupont, et d'autre part une formation musicale de compositeur qui s'appelle Sound Initiative. D'ailleurs, Sound Initiative a été en programmation, plus exactement en résidence, à la Fondation Royaumont. Alors c'est très intéressant, ce sont des artistes que nous suivons. Et également Antouniez, qui est une artiste de la musique, cette fois-ci. Et puis Rocio Berenguer, qui est une artiste qui travaille avec des milieux scientifiques, des laboratoires de recherche, des universités, autour de l'intelligence artificielle, dans la dramaturgie, dans le théâtre. C'est-à-dire, elle, par exemple, communique avec des machines. Ça, c'est très intéressant, parce qu'elle dialogue sur scène avec des machines. Donc c'est un autre questionnement, donc des artistes qui travaillent, qui sont en résidence. L'autre aspect, la question est intéressante, parce que comment, en situation de pandémie, faut-il tout arrêter ? Au contraire, notre vision a été celle-ci, c'est-à-dire de dire que Enghien, qui est une ville culturelle, c'était évidemment une volonté du maire Philippe Sueur, c'est-à-dire que rien ne s'arrête. Quand nous sommes dans une situation aussi grave par rapport à cette pandémie, eh bien, il y a des dégâts collatéraux. Ils sont économiques, bien sûr, ils sont sur l'emploi, et ils sont également sur le plan social. Et il faut recréer un lien, finalement, il faut recréer un lien et essayer de rompre cette distanciation. Par quoi ? Eh bien, en utilisant, évidemment, l'Internet, et c'est ce que nous faisons. Alors, nous ouvrons les coulisses du Centre des Arts, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple très concret, une visite guidée que nous préparons actuellement de l'exposition qui sera accessible sur Internet, donc alors en diffusion et en rediffusion bien sûr, également des ateliers pour les plus jeunes, c'est-à-dire de pouvoir pratiquer des activités artistiques sur un mode ludique, mais le faire en ligne, tout simplement, et puis également de pouvoir découvrir les coulisses d'un théâtre, de découvrir un peu ce que font les artistes dans ce travail de création, pendant ces mois de travail de création. Et puis également, si je prends la médiathèque, qui est quand même un lieu de savoir, c'est-à-dire de continuer l'heure du conte pour les enfants, de continuer des lectures, que ce soit de romans, de donner des actualités chaque semaine, d'offrir pour, si nos auditeurs nous entendent, bien profiter évidemment de tous les fonds qui sont accessibles en ligne. Et puis, si je prends les conférences, c'est de pouvoir avoir en rediffusion des conférences, puisqu'il y a eu Michel Serres, il y a eu d'autres philosophes, des conférences d'auteurs, de romanciers aussi, et puis de évidemment de suivre celles qui vont avoir lieu, mais qui vont se faire virtuellement. Alors, il y a évidemment les ciné-clubs avec Alain Bergala, les Cahiers du cinéma. Ça va être, il va y avoir un thème sur Pasolini qui va être abordé. Juliette Garçon, qui sont des conférenciers. Et on va pouvoir suivre en ligne, on va pouvoir continuer à avoir ce lien, puisque finalement, c'est face à la pandémie. Les dégâts collatéraux, c'est aussi, eh bien, face à ces, justement, c'est de recréer un lien. Et effectivement, nous allons continuer à le faire de cette manière. Pour l'école de musique, il y aura des tutoriels, une façon d'apprendre la guitare, comment apprendre le piano, de façon à ce que il n'y ait pas cette rupture et que l'on puisse autrement. Évidemment, ça ne remplace pas la rencontre dans le sens premier, mais en même temps, ça permet, si vous voulez, de valoriser tout un ensemble de fonds, de documentation que nous avons réalisé au cours des 20 dernières années, avec des conférences, des films. Donc d'avoir un accès à la culture qui ne soit pas simplement un clic en disant « je veux voir ce film », mais c'est d'avoir la conférence, le commentaire de Bergala, en l'occurrence, ou avoir sur les conférences la présentation d'ouvrages qui sont faites par ces conférenciers.
Alors donc, je reprends ce que vous venez de dire parce que c'est très important. Donc finalement, tout ce qui va se passer ou tout ce qui s'est passé en culture à Enghien-les-Bains, que ce soit au Centre des Arts, à la médiathèque ou à l'école de musique, on va pouvoir le regarder de chez soi via, je suppose, les plateformes internet que chacun des lieux publics ont, c'est bien ça, et on pourra les regarder à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.
Tout à fait. Alors évidemment, il y a une temporalité.
Ou les entendre, bien sûr.
Parce qu'on s'adresse pas aux enfants à 3h du matin. Je veux dire qu'il y a évidemment.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que ce qui va se passer en direct, ça va rester sur la plateforme
en rediffusion.
Ou bien est-ce que vous allez l'enlever et remplacer par autre chose?
Alors il y aura une actualité. Ce que nous construisons actuellement, c'est des actualités toutes les semaines, donc qui sont en première diffusion. Et ensuite en rediffusion. Et ensuite une deuxième partie qui est une partie qui est de rediffusion de choses qui ont, que ça soit des conférences, que ça soit des films, que ça soit des spectacles même qui ont été produits par le Centre des Arts et par la ville d'Enghien-les-Bains et que nous allons rediffuser exceptionnellement parce qu'habituellement c'est n'était accessible que avec l'achat du DVD. Voilà,
Qu'il y a des problèmes de droits d'auteur, j'imagine, derrière.
Voilà, il y a des questions de droits d'auteur, mais c'est vrai que ce que nous souhaitons, c'est garder le lien aussi avec que ce soit les familles, les plus jeunes, un lien qui soit continu, c'est-à-dire un fil continu à la fois par ses actualités, par ses rediffusions, par ses diffusions, et puis aussi des ateliers en ligne. C'est-à-dire qu'on peut y participer. Et je prends un exemple, puisque c'était samedi, l'école de musique a mis en œuvre deux formes d'ateliers, des ateliers qui se font, alors des tutoriels à distance, avec le professeur qui instrument en main, donc poursuit son enseignement, mais également avec une participation de groupe, c'est-à-dire d'ateliers sur l'histoire de la musique, et qui, pas cette fois-ci individuel, mais collectif, entre les élèves et les professeurs. Donc ce sont aussi de nouveaux formats, en quelque sorte, qui sont adaptés à l'Internet, finalement, mais qui permettent aussi de garder ce lien avec les usagers.
Donc finalement, vous allez vous servir de la clientèle de chacun des lieux pour les informer et les faire participer. Déjà, ça sera déjà une bonne manière de garder le lien, finalement.
Je crois que c'est indispensable, surtout dans la situation où nous nous trouvons, eh bien de continuer à pratiquer des activités culturelles, artistiques, d'avoir aussi un lien avec les lieux qui, de toute façon, pour ce qui concerne la médiathèque, continuent le prêt du livre, il faut le savoir. Alors ça se fait d'une autre manière, on ne vient pas dans les lieux directement, devant le bâtiment, il y a le prêt continue à se faire, sur rendez-vous, par réservation. L'école de musique fonctionne, mais à distance. Et le Centre des Arts, lui, fonctionne avec l'ensemble de ses fonds à disposition et des ateliers également pour les publics scolaires.
Est-ce que sur le site du Centre des Arts, vous allez également diffuser des films à revoir ou là, c'est interdit?
Alors, des films à revoir, oui. Ce qui est intéressant, c'est d'éclairer ces films. C'est-à-dire que nous sommes dans Le rapport des publics à la télévision aujourd'hui, on le sait, avec les Netflix, etc., c'est d'avoir un accès direct à des films. Là, ce que nous apportons en plus, c'est d'avoir le commentaire, l'approche critique du film, c'est-à-dire des choses qui sont éditorialisées.
Et Dieu sait si vous en faites, enfin, vous diffusez beaucoup de films par an, c'est énorme la diffusion du Centre des Arts en cinéma.
Et il y a effectivement, oui, actuellement, ça n'est pas encore prêt, mais ça va l'être, en tous les cas pour le mois prochain. C'est le MOOC, hein, qui est Massive Open Course, qui est une tutoriel, qui est en fin de compte une formation en ligne. Sur les effets spéciaux du cinéma. Parce que
donc ça, c'est le scoop du jour. C'est ce qui va se passer au mois de décembre, donc. C'est le second MOOC du Centre des Arts sur les effets spéciaux.
Oui, le premier était sur art et création numérique. Et nous en sommes à 8400 inscrits, quand même. C'est avec la Fondation Orange. C'est plutôt bien pour un sujet qui n'était pas aussi facile à aborder. On aborde plus la peinture de la Renaissance que la création numérique. Et cette fois-ci, on voulait avec la Fondation Orange, ouvrir une autre thématique, finalement. C'est finalement les effets spéciaux qui sont invisibles aujourd'hui. C'est-à-dire on ne voit pas quand on est public, quand on va voir un film, tout s'efface. C'est-à-dire que ces effets visuels ou ces effets spéciaux sont complètement effacés. À tel point que, et nous a paru intéressant, puisque la ville d'Enghien, comme vous le savez, nos auditeurs le savent, organise chaque année le festival des effets spéciaux, qui est le Paris Image Digital Summit, qui est quand même un événement qui, à la fois, récompense les plus grands, comme Phil Tippett, travaillant sur Jurassic Park, ceux qui ont été oscarisés, bien sûr, mais pas seulement, et aussi une profession qui est en plein développement. Alors, ce MOOC, il correspond à quoi ? En réalité, ce sont quatre séquences. Une séquence introductive qui s'adresse vraiment au grand public. Hein. On peut être, c'est de 7 à 77 ans, hein, comme Tintin. Nous abordons ce MOOC avec les premiers effets spéciaux dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire avec le magicien qui était Méliès. Voilà, alors comment avec une surimpression, vous voyez l'homme orchestre, comment se rajoute le même personnage, etc. Parce qu'on coupe, on arrête la caméra, on reprend la caméra. Et Méliès s'était aperçu que, il fabriquait des trucages. Ce sont les premiers trucages. Ensuite, il y a Serge Bombert, qui est quelqu'un que l'on sait être passionné sur les chaînes cinéma. Présente un petit peu tous ces artifices fabriqués à l'époque, dans les années 1910 et dans l'époque des premiers temps du cinéma. Et puis ensuite, il y a les effets, ce qu'on appelle la stop motion, c'est-à-dire où vous faites image par image et vous fabriquez avec des miniatures, des monstres, des personnages. Alors, vous avez King Kong. Alors, on ne sait pas toujours comment sont fabriqués ces effets à l'époque. King Kong et puis Ray Harryhausen, qui est un monsieur qui s'est inspiré évidemment de ce qu'il avait vu avant, de ses premiers effets, et qui, lui, a fabriqué des effets pour Jason et les Argonautes, vous voyez.
Mais on peut dire que c'est presque l'inventeur des effets spéciaux.
Ce sont des inventeurs avec des techniques particulières. Et puis, on arrive vraiment à la grande révolution, c'est Jurassic Park, puisque là, à ce moment-là, c'est l'informatique qui s'en mêle, et nous avons en numérique, on fabrique, à la fois, vous avez la morphologie des personnages, vous avez un squelette qui est fabriqué d'une façon vectorielle, c'est-à-dire sur un ordinateur, et ensuite on l'habille, c'est-à-dire il a une peau, des textures, et on n'a jamais été aussi près du réalisme, c'est-à-dire de voir apparaître des dinosaures qu'on ne voyait que sur des livres d'histoire.
Alors finalement, ce second MOOC sur les effets spéciaux, Dominique Roland, sera disponible quand, a priori, puisque là vous n'allez pas pouvoir le faire en public non plus, j'imagine, qu'on sera encore confiné. Donc vous allez le diffuser sur le site du Centre des Arts ?
Alors, il sera prêt pas avant janvier, parce qu'il y a encore nous sommes en montage. Ça représente un petit peu, si vous voulez, la présentation, elle va recouvrir quoi ? Les premiers temps du cinéma jusqu'à l'ère numérique, jusqu'aux effets que l'on trouve aujourd'hui, qu'on en retrouve avec Star Wars. On explique comment fabriquer dans le ciel les vaisseaux spatiaux, etc. C'est ensuite, on part de quoi ? D'un storyboard, on écrit, on fabrique, puis les environnements et les paysages. Et là, on va, par exemple, montrer des milliers, comme on passe de 20 figurants dans Game of Thrones, en passant à 2000. vous fabriquez des personnages partout que vous animez et qui ont chacun un rôle, des rôles différents parce qu'il faut les différencier. Et démonstration faite. Et puis ensuite, nous avons les personnages et les créatures. Alors comment, par exemple, on fabrique la doublure d'un acteur, comment on rajeunit de Schwarzenegger de 30 ans, et comment vous... Donc tous ces effets aujourd'hui font partie du cinéma, il y a un film...
Et c'est comme ça qu'on peut mieux rêver quand on regarde un film.
Alors vous avez par exemple, aussi c'est une économie, parce que vous avez pour ce MOOC, quand vous considérez par exemple fermer les Champs-Élysées pour tourner... ce qui a été le cas d'un Shabbat pour Santa et compagnie, c'était un traîneau qui est en l'air et au milieu des Champs-Élysées. Si vous devez fermer les Champs-Élysées, ne serait-ce qu'une journée, ça va vous coûter plus cher que de fabriquer en effets spéciaux. Donc, l'idée, ça a été de tourner des images réelles, d'installer les décors, de les refabriquer en modélisant en trois dimensions. Et puis de sortir évidemment une scène où vous en avez ce traîneau qui vole au-dessus des automobiles et qui arrive jusqu'à l'Arc de Triomphe.
Et c'est donc tout ça qu'on pourra apprendre grâce à ce MOOC.
Et 50 minutes, vous avez et vous avez évidemment des quiz. Et vous avez la possibilité, de jouer, c'est-à-dire de voir si vous avez appris la différence entre ce que nommé stop motion, ce qu'on appelle les prévisualisations. Puisque maintenant, l'exemple type, c'est que vous pouvez fabriquer votre propre avatar. Alors, il peut être en ange ou en dragon. Et tous les mouvements que vous faites, vous avez votre propre avatar qui est à côté de vous, que vous voyez sur l'écran, qui est vous, effectivement. Donc, tout ceci ouvre à des métiers, je parle pour les jeunes, qui sont ce qu'on appelle en tension. C'est-à-dire que vous avez sorti d'école, puisque nous avons une école ici, Artifix, qui est installée à Enghien.
Ça, c'est très important.
C'est-à-dire que des jeunes qui sortent de formation de master et ou de cinquième année d'études, ont trois rendez-vous pour un emploi.
Donc, en effet, spéciaux, il y a de l'emploi à pourvoir, effectivement. Merci Dominique Roland de nous avoir présenté donc cette nouvelle manière de faire de la ville d'Enghien-les-Bains. Je vois que vous ne manquez pas d'idées à Enghien-les-Bains. Donc on peut déjà prendre des livres à la médiathèque. Je rappelle ce que vous avez dit, Dominique Roland. Il faut prendre rendez-vous. Et puis sur le site, on a toujours pour les enfants l'heure du conte, pour les plus âgés les conférences. On a toujours la lecture. Et puis à l'école de musique, tout se fait en tutoriel, donc on peut apprendre à jouer d'un instrument en tutoriel. Et sur le Centre des Arts, plein de choses. Là, c'est assez vaste, entre les ateliers, les visites guidées, les films, les coulisses, etc. Peut-être dernière question, peut-être on peut parler, Dominique Roland, ensemble, c'est de la conférence qu'il va y avoir ce soir à l'UNESCO, parce que ça intéresse, c'est l'impact de l'IA, c'est bien ça ce soir ? Pourra suivre à distance.
Oui, c'est en l'occurrence le thème est évidemment il y a plusieurs rubriques, mais ce soir il s'agit de l'intelligence artificielle dans l'art et les industries culturelles et créatives. Alors c'est lié à la convention de 2005, la convention sur la diversité culturelle, sur l'expression de la diversité culturelle, et là ça va être une rencontre entre différents spécialistes. Moi, je suis sur le registre artistique, bien sûr, mais également notamment quelqu'un qui a travaillé avec CSL Sony et donc qui travaille avec Flow Machine, qui est en fait de l'intelligence artificielle au service de la musique pour créer éditer et en même temps composer à partir des bases de données, ce que nous avions fourni. On a travaillé ensemble d'ailleurs. Voilà, c'est une expérience intéressante. Et puis c'est surtout, à quoi sert l'intelligence artificielle pour les artistes, puisqu'on sommes dans une société où on pense toujours que la machine va prendre le pas sur l'homme, mais finalement, la machine n'est programmée que finalement ce que l'homme programme. Et quand quelqu'un me disait toujours, ah mais tu sais, pour la robotique, c'est pas compliqué, il suffit de tirer la prise. Et tout s'arrête. Donc les machines sont ce que nous en faisons, et finalement sont aussi des aides au niveau de, je parle de l'algorithme finalement, sont des aides pour pouvoir... et vraiment faire ce qu'on appelle des protocoles de recherche sur des domaines qui sont justement qui touchent la création, qui touchent aussi l'urbain aussi, c'est-à-dire les futures villes, les villes du futur, comment le travail, enfin un ensemble de données.
Mmh. Ma journée est passée à une de ces vitesses. Pas mis le nez dehors et pas lavé. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris. Au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher. C'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier. C'est oui ou bien c'est non. Hier encore on était liés. J'étais celle de tes rêves. Celle qui comble tes nuits et la mariée. Faut dire que ce fut bref. Ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express. T'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort. C'est faux peut-être mais au plus je ris. Au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher. C'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier. C'est oui ou bien c'est non.
Pourquoi t'es... Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, nous parlons culture et numérique, bien savoir manier Instagram, se faire aider pour lancer ses projets d'entreprise et puis la qualité en entreprise. Et pour cela, j'ai à mes côtés Milena Stokovic, Steve Unponou et Pierre Giraud. Pierre Giraud, vous êtes le président de France Qualité. Alors, justement, j'avais envie de vous demander, est-ce que la crise a un impact sur la qualité en entreprise, bien sûr?
Très clairement, avant la crise de la Covid-19, tous nos adhérents, un peu partout en France, entreprises, administrations, collectivités territoriales, nous disaient « il y a un regain d'attrait, d'intérêt pour les démarches qualité », au sens large, hein, associant à l'assurance qualité traditionnelle tous les éléments de type maîtrise des risques, par exemple, ou satisfaction client. Alors, bien entendu, la crise sanitaire fait que, dans un certain nombre d'entreprises, hélas, tout le monde a à gérer des conséquences parfois un peu dramatiques, de type arrêt d'activité, de type chômage partiel. Évidemment, ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences, y compris sur les aspects fonctionnement au quotidien. Sauf que, ce qui remonte de plus en plus aussi, c'est le fait que, y compris, et peut-être a fortiori en période de crise, un certain nombre d'apports des démarches qualité prennent une importance encore plus forte. Par exemple, tout ce qui touche à la maîtrise des risques, évidemment. Mais aussi, ce qui permet peut-être de maintenir une forme de compétitivité et de continuer à améliorer la satisfaction des clients. Un client satisfait, il revient, entre guillemets, donc on est bien sur un enjeu de fidélisation. Je dis ça parce que quand on interroge les chefs d'entreprise et le collectif entreprise du futur le fait quotidiennement à l'heure actuelle, 65% répondent aujourd'hui à la question « qu'est-ce qui va se passer demain ?» qu'ils prévoient une reprise progressive, peut-être très lente, mais quand même, de l'activité probablement à l'horizon du milieu de l'année prochaine. Et ça, ça renvoie à une autre dimension des démarches qualité qui nous semble essentielle. Pour poser la question autrement, est-ce que la qualité coûte? Il y a souvent des débats sur le sujet, et c'est normal. À la vérité, quand on regarde bien, qu'est-ce qui coûte dans une entreprise, et notamment une TPE, une PME-PMI, c'est par exemple une non-conformité produit, une gestion de stock déficiente, des frais administratifs de support, une sous-optimisation des modes de fonctionnement. C'est tout ça qui coûte. Et cette famille de sujets, on a coutume de l'appeler les coûts de non-qualité. Il faut savoir que une étude relativement récente du groupe AFNOR montre que 66% des entrepreneurs qui réalisent une évaluation des coûts de non-qualité en situent le niveau à 1 à 5% du chiffre d'affaires, 19% pensent même que c'est entre 6 et 10, et 15% au-delà de 10. Si on rapproche de tels chiffres du fait qu'en général en France, on considère que le taux de marge nette est de 3% du chiffre d'affaires, d'évidence, il y a là un gisement de gains économiques très important. Autrement dit, c'est plutôt comme un investissement qu'on doit considérer la démarche qualité. Bien sûr, la lancer, ça implique parfois la mise à disposition de moyens, ce qui peut apparaître un peu anachronique dans le contexte. Encore une fois, quoique, la reprise d'activité, elle va arriver. Et du coup, c'est très important d'investir dans ce domaine, corriger les coûts de non-qualité, engager des mesures correctives. En réalité, c'est améliorer l'économie de l'entreprise.
Alors, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'on entend par qualité pour les TPE ?
Vous le sentez bien, c'est effectivement très large.
Parce qu'on imagine très bien pour une grande entreprise, et notamment pour une entreprise industrielle, on pense à l'industrie, mais vous avez parlé de services, et ça, on n'y pense pas à laquelle, parce que on s'imagine bien que pour une entreprise, faire un bon service, c'est quand même le béaba si on veut perdurer. Donc pour vous, qu'est-ce que c'est en particulier la qualité dans les TPE ?
Quand nous demandons aux adhérents, en particulier les TPE, PME, PMI, ce qui leur semble important dans toute la famille de sujets des démarches qualité, en ce moment, ils nous disent beaucoup, c'est l'optimisation des processus. Comment s'assurer que la chaîne de production fonctionne ? Et ils nous disent aussi, c'est l'amélioration du service au client. J'ajoute qu'il y a un autre élément qui apparaît de plus en plus, et on ne l'imagine pas obligatoirement, c'est le fait qu'une PME, PMI, elle est dans un écosystème. Et de plus en plus, au-delà des clients, ou plus exactement, complémentairement aux aspects clients, elle s'intéresse aussi aux collectivités territoriales, aux fournisseurs, à tous les acteurs de la supply chain. Bref, elle s'investit dans la logique de l'écosystème. Et du coup, la question qu'on pourrait se poser aussi, c'est comment essayer d'aider encore plus les PME, PMI à avancer dans cette direction. Alors évidemment, chacun peut avoir une réponse. Au sein de France Qualité, nous consolidons plus que jamais le partage des bonnes pratiques. C'est essentiel. Comment partager un certain nombre de pratiques qui réussissent à l'échelle du réseau ? Comment faire connaître à une PME, PMI d'une région, peut-être, une démarche qui a été réalisée ailleurs et qui a donné de bons résultats ? Nous pensons qu'il est possible d'aller encore au-delà, au travers de deux leviers en particulier. Le premier levier, c'est d'aider les PME, PMI qui sont engagés à l'export en termes de facilitation de contact, en termes d'accompagnement. Autrement dit, beaucoup de PME, PMI vendent à l'étranger. Ça ne se sait pas forcément, mais c'est souvent un levier de réussite majeur. Pour faire ça, bien sûr, il y a besoin de travailler sur les produits et services, mais pas seulement. Ce n'est pas évident de prime abord de savoir où on peut trouver des aides, où on peut trouver des accompagnements, quels sont les relais, qui peut mettre en relation la PME, PMI avec d'autres correspondants à l'international. Il nous semble que ça reste un champ de progrès et que dans le cadre du plan de relance actuel, il est effectivement important d'y consacrer un petit peu d'énergie. Et puis l'autre élément, c'est que justement le plan de relance, vous le savez bien, prévoit de faciliter le maintien en activité ou le redémarrage des PME, PMI qui peuvent peut-être s'engager sur le terrain de l'innovation numérique ou de la transition écologique ou de la réindustrialisation territoriale. Là encore, quand vous regardez bien, qu'est-ce qui permet de réaliser de tels projets ? Des méthodes et outils adaptés. Les méthodes et outils qualité, il faut toujours le rappeler, servent aussi à conduire un projet de manière adaptée et efficiente.
Alors ce que vous voulez dire, j'imagine, c'est que le partage de ces bonnes pratiques à France Qualité se fait tout secteur d'activité confondu. C'est pas parce qu'on prend une entreprise industrielle qu'on peut pas mettre les bonnes pratiques, j'imagine, dans une entreprise qui fait complètement autre chose.
Vous avez totalement raison. Et même si c'est un peu contre-intuitif, souvent la bonne pratique dans un domaine, on la trouve au sein d'un secteur d'activité qui n'est pas forcément celui de l'entreprise considérée. Et ça implique effectivement qu'on aille encore plus loin dans la dimension échange et partage. Au passage d'ailleurs, la crise sanitaire oblige aussi France Qualité en tant qu'organisation à se transformer.
À se réinventer, j'imagine.
Ah ben clairement.
Et qu'est-ce que vous avez fait alors ?
On a par exemple modifié beaucoup la manière d'échanger justement avec les adhérents et au-delà un certain nombre de prospects. Vous doutez bien que les événements, les rencontres dans une même salle s'avèrent un peu moins bienvenus dans le contexte. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ben, en réalité, nous travaillons de plus en plus sous forme de webinaires, sous forme d'ateliers 5 à 7 à distance. Au fond, l'approche distancielle permet, c'est un peu un paradoxe, mais finalement pas tant que ça, de partager à plus grande échelle justement les bonnes pratiques. Donc le premier élément de notre transformation actuelle, c'est que nous allons de plus en plus vers l'utilisation du numérique avec en cible un panel qui peut être limité aux adhérents de l'organisation, parfois emporter aussi des liens au-delà. Deuxième élément de transformation, c'est que nous travaillons de plus en plus avec différents partenaires. Exemple, France Qualité investit à l'heure actuelle beaucoup dans la formation, dans l'accompagnement, dans l'accueil des jeunes générations. Les étudiants d'aujourd'hui sont les responsables de demain. Nous avons, le 28 septembre dernier, réalisé un After Work pour les jeunes. C'était le premier, il y en aura d'autres. Et nous développons à l'heure actuelle tout un réseau de jeunes, étudiants ou nouveaux embauchés, engagés dans les démarches qualité, QSE, et qui peuvent demain devenir les responsables au sein d'entreprises, d'administrations, de collectivités territoriales.
Alors pour pouvoir échanger tout ça, et notamment les bonnes pratiques, et puis créer ce réseau, comment fait-on ? Où faut-il joindre France Qualité ?
Vous pouvez évidemment commencer par aller sur le site de l'association France Qualité Performance, France Qualité en abrégé. Vous pouvez aussi, puisque nous sommes une organisation nationale, comme vous le savez, vous rapprocher de l'ensemble des structures territoriales. Je tiens beaucoup au partage entre les régions, entre les territoires.
C'est-à-dire qu'il y a des antennes, vous voulez dire, de France Qualité dans les régions, c'est ça ?
C'est exactement ça. Dans l'ensemble des régions, il y a une structure de l'association France Qualité Performance qui fonctionne. Pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que les enjeux et les attentes ne sont pas forcément les mêmes d'une région à l'autre. Nous avions en bureau exécutif de France Qualité la semaine dernière un point détaillé sur l'Île-de-France, par exemple. On sait qu'en Île-de-France, le lien entre qualité et développement durable, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. Et les entreprises adhérentes attendent qu'on les aide, qu'on les accompagne là-dessus. Vous savez, la fameuse responsabilité sociétale des entreprises, c'est là qu'on va la retrouver. Quand on est dans une région comme le Grand Est, pour citer un autre exemple, là on va être beaucoup plus sur des process industriels. Et c'est la raison pour laquelle faire confiance aux structures régionales de France Qualité, de mon point de vue, c'est la meilleure manière finalement de répondre aux attentes des adhérents. Au passage, il y a un dernier élément de transformation actuelle que j'aimerais peut-être partager avec vous, c'est que transformer France Qualité, c'est aussi contribuer de plus en plus à l'évolution de l'état de l'art, apporter des éléments de réflexion-action. Exemple, nous avons très récemment publié un livre blanc consacré au savoir-être et à l'intelligence émotionnelle. Cela peut paraître étrange.
Ça paraît étrange comme premier sujet pour France Qualité Performance, effectivement.
Oui, et en réalité, ça s'explique de manière très simple. Dans la phase de crise actuelle et au moment où les liens entre les personnes prennent de plus en plus d'importance, même si c'est à distance, nous avons souhaité souligner à quel point l'intelligence émotionnelle, à quel point la dimension d'échange au sein des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, revêtait une importance importante. majeur. Ce sont les femmes et les hommes qui font la qualité, il faut toujours le rappeler.
Merci Pierre Giraud, effectivement, heureusement, comme vous le dites, le rapport humain reste primordial et prioritaire. Donc je rappelle ce que vous venez de dire, si on veut plus d'informations et rejoindre ou avoir des bonnes pratiques, eh bien il faut rejoindre France Qualité Performance, donc par internet, il est facile de trouver le site et puis les réseaux sociaux. Pierre Giraud, je rappelle qu'en plus d'être le président de cette association, vous êtes aussi le directeur qualité d'Air France. Alors ça doit interpeller notre troisième invité. On va changer de sujet avec Milena Stokovic, car Milena, vous avez lancé votre start-up en 2019, vous êtes cofondatrice. Vous êtes ce qu'on appelle un accélérateur digital. Alors déjà, pourquoi avoir lancé cette start-up ?
Alors oui, on a lancé IfStart il y a un an parce que il faut le dire que avant de lancer une start-up, nous avons travaillé dans un incubateur assez connu. C'est un incubateur de l'école Arts et Métiers. Et on a pu constater un certain nombre de points et des besoins auxquels on voulait répondre. On sait aujourd'hui qu'il y a pas mal de structures d'accompagnement, mais plus on creuse, plus on va auprès des entrepreneurs, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de besoins qui ne sont pas satisfaits. Et on a essayé, en créant IfStart, de répondre à ce besoin. Il faut dire que, par exemple, la première chose, c'est que vous avez aujourd'hui énormément de gens qui veulent créer ou qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais ne sont pas accompagnés. Alors pourquoi ? Bah parce que déjà, ils ne savent pas qu'ils peuvent être accompagnés. Ils ne savent pas que être accompagné, en fait, c'est une base pour réussir. Et on sait qu'aujourd'hui, en étant accompagné, vous avez beaucoup plus de chances de réussir parce que vous bénéficiez d'un environnement, d'un écosystème, des conseils de tous ceux qui sont déjà passés par là, de tous ceux qui ont rencontré beaucoup plus de gens autour de vous. Et donc, être accompagné aujourd'hui, c'est vraiment la base. Et si on veut éviter un tas d'erreurs, c'est essentiel d'être accompagné. Donc déjà, la première chose, on sait qu'il y a beaucoup de structures d'accompagnement, mais elles sont souvent assez sélectives. Il y a beaucoup de critères pour y accéder. Et parfois, vous cochez pas des bonnes cases, bah, vous restez à côté. Et en fait, il y a beaucoup de structures qui ont des critères assez exigeants. Je parle parce que nous-mêmes, on a pu expérimenter cela avant. Et toutes ces structures sont souvent liées. Les problématiques sont liées à l'espace physique, c'est-à-dire elles ont les murs, elles peuvent recevoir un certain nombre de personnes et effectivement elles sont obligées de sélectionner. Ces structures-là sont souvent aussi financées ou cofinancées par des finances publiques, ce qui veut dire qu'elles ont aussi un manque de moyens. Et malgré toutes les bonnes volontés, on se rend compte que il y a malgré tout beaucoup d'entrepreneurs qui restent en dehors des systèmes d'accompagnement. Et ça, c'est d'autant plus vrai quand vous allez dans les territoires, quand vous êtes éloigné des centres économiques, quand vous habitez à la campagne, à la montagne, à des endroits très inaccessibles, on va dire, en tout cas beaucoup moins accessibles, et ben vous restez en dehors de tout système d'accompagnement.
Et donc, on s'est dit que c'est pas forcément la première recherche de celui qui crée. Il est plongé dans son projet et il pense pas forcément justement.
Souvent ils n'y pensent pas du tout. Et c'est tout le problème. Et quand on est surtout tout seul, on n'a que soi-même comme repère. Mais sauf que parfois, comment vous savez si vous êtes sur la bonne voie? Comment vous savez que vous ne faites pas l'erreur? Et puis comment savoir comment vous ne perdez pas le temps, en fait? Donc déjà, être tout seul, ce n'est pas très bien. Il vaut mieux être au moins avec quelqu'un. D'ailleurs, les financeurs préfèrent toujours avoir deux associés qu'un seul. C'est aussi une question de prise de risque partagée. Mais surtout, quand vous avez la tête dans le guidon, c'est très difficile parfois de prendre de recul.
Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que vous êtes un accélérateur digital? Quels sont les services que l'on peut vous demander en tant que porteur de projet ou jeune ou moins jeune d'ailleurs, chef d'entreprise? Parce que c'est pas parce qu'on crée qu'on doit forcément faire appel à vous. On peut aussi avoir une entreprise déjà établie et puis un besoin de se développer et donc un besoin de se faire accompagner.
Alors complètement, parce que notre accompagnement n'est pas uniquement l'accompagnement à la structuration du projet, ça va au-delà. On sait qu'aujourd'hui, faire du chiffre d'affaires, c'est quand même la base si on est une entreprise. Donc avant tout, faut penser à trouver des clients. C'est le besoin numéro un de toutes les entreprises. Et donc, notre objectif, c'est d'aider nos entreprises accompagner avant tout d'aller sur le marché, trouver des clients. Et ça rejoint beaucoup la relation au client, la qualité dans leur démarche. Et ce que vous dites, ça rejoint beaucoup ce qu'on dit tous les jours à nos entrepreneurs. Il faut avoir une démarche de qualité intégrée, j'ai envie de dire, dès le départ de la structuration de son entreprise et aller apporter une réponse adaptée aux clients. Donc, on les accompagne pour trouver leur marché, pour trouver des clients, pour trouver les business développeurs qui les accompagnent. On les aide à trouver des expertises parce que quand on est un chef d'entreprise, il faut surtout ne pas se dire qu'on sait tout parce qu'on ne sait pas tout. Donc, on les aide à trouver des expertises et surtout, on les aide aussi à trouver des financements, que ça soit public et privé, et ça, tout le monde en cherche.
Alors, Milena Stokovic, je rappelle que vous êtes directrice générale de IfStart. Est-ce que c'est long, par exemple, de trouver des financements? Est-ce que...
Toujours.
C'est toujours aussi long?
Ah oui, oui. Les gens, parfois... pense que ça arrive, il suffit de claquer des doigts et que ça arrive. Ils pensent que tout le monde attend que eux pour obtenir des financements. En fait, c'est pas du tout comme ça. Déjà, les financements, ça existe, mais il faut savoir les trouver. Déjà, avant tout, il faut savoir structurer son projet, avoir un bon projet qui correspond aux besoins du terrain. Il faut savoir que les financements publics et les financements privés ont différents types d'exigences. Les financeurs publics chercheront à trouver les résultats d'une autre façon que les investisseurs privés. Moi, je rappelle toujours à nos clients qu'en fait, financement public, c'est le financement de nous tous, ce sont nos impôts. Et lorsque les financements publics interviennent auprès d'une entreprise, c'est pour développer des territoires, pour créer de l'emploi, pour améliorer la vie de concitoyens d'un territoire. Et lorsqu'on crée une entreprise, il faut avoir en tête que si on cherche des financements public, il faut savoir que derrière, il faut créer de l'emploi. Une entreprise qui se développe, c'est aussi une entreprise qui recrute. Et ça, c'est très important. De l'autre côté, vous allez avoir effectivement des investissements privés qui vont avoir une autre logique, qui vont avoir les besoins et l'exigence de rentabilité de chiffre d'affaires, comme tous par ailleurs. Mais c'est vrai que les principes ne sont pas les mêmes. Il faut savoir que ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps pour obtenir des financements.
Alors justement, mais le temps, c'est ce qu'un chef d'entreprise n'a pas tant que ça. Finalement, est-ce que vous vous substituez à lui? Est-ce que dans votre projet de développement, c'est vous qui allez pour le chef d'entreprise?
Jamais. C'est une grosse erreur.
Donc, en fait, c'est toujours quand même au chef d'entreprise d'aller présenter son projet aux banques ou au système de financement que vous allez lui trouver. C'est bien ça?
Je pense que c'est indispensable que le chef d'entreprise cherche et présente son projet lui-même. Se substituer au chef d'entreprise, c'est ne pas lui rendre service. C'est un vrai piège à éviter. Nous les accompagnons à adapter la bonne démarche pour savoir cocher les bonnes cases, structurer leur projet de façon à ce qu'ils correspondent aux exigences. C'est très compliqué les financements, il y a les codes comme partout. Il faut savoir apporter des bonnes réponses, mais on peut jamais faire à la place d'eux. C'est vraiment pas ne pas leur rendre service.
Alors, vous aidez aussi au développement à l'international. En fait, on peut vous demander beaucoup de choses. Est-ce que l'impact de la crise Covid est-ce que la crise Covid plutôt a eu un impact sur votre développement vu que vous êtes en mode start-up?
Alors, il y a plusieurs choses. Moi, je peux dire qu'on était quand même un peu visionnaires. Et c'est ce qu'on dit toujours à nos entreprises, soyez visionnaires, c'est comme ça qu'on avance, allez au-delà et dites-vous que c'est pas impossible. Donc dès le départ, notre modèle était d'accompagner à distance, ce qui nous permet aujourd'hui de couvrir tout le territoire, tous les entrepreneurs et surtout peu importe où ils se trouvent, encore à la campagne, dans les villages, etc. Et donc, puisqu'on fait à distance, donc ça c'était la première chose. Est-ce qu'il y a eu un impact? Pour nous, pour le coup, nous on se développe. Pour nous, c'est très bien, hein. On ne peut pas se plaindre. Mais est-ce qu'il y a eu un impact? Moi, je dirais qu'il y a un impact positif et ça rejoint ce que vous dites. Beaucoup de gens se sont posé des questions. Comment souhaiter rebondir face à la crise? Et on a de plus en plus de gens qui se disent, oui, je veux faire des choses qui ont du sens. Je veux être dans la qualité, apporter une réponse, donner du sens à ma vie. Et c'est là où, effectivement, ça rejoint tout ce que vous dites. Et on a de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent avec des projets qui ont du sens. Et ça, c'est vraiment satisfaisant, même très encourageant.
Alors, vous fonctionnez avec un réseau d'experts. Comment est-ce que vous êtes en recherche d'experts et dans quel domaine ?
Nous sommes toujours en train d'élargir notre réseau d'experts. On travaille avec des gens qui partagent nos visions, nos valeurs, qui sont dans la bienveillance, qui sont là pour aider les autres, pour avancer, pour leur apporter de la joie et de la réussite. C'est très important. Et on sélectionne toujours dans tous les domaines. On a vraiment des experts dans tous les domaines qu'on peut rencontrer. Notre objectif, c'est d'être un opérateur de services aux startups. Et l'idée, c'est de vraiment apporter des réponses aux entreprises, quels que soient leurs besoins.
Alors, combien ça coûte si je suis une entreprise? Comment vous vous financez? Quel est votre modèle économique?
Nous sommes vraiment pas chers. Et ça, c'était une approche qu'on a voulu, qu'on a adoptée dès le départ, justement, pour pouvoir permettre à tous ceux qui le souhaitent d'être accompagnés. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui proposent des services d'accompagnement qui facturent très cher. Nous sommes aujourd'hui à 120 euros d'accompagnement par mois. Ce qui permet justement à tous ceux qui n'ont pas forcément l'idée de se faire accompagner, qui ne pensent pas ou qui pensent qu'ils ne peuvent pas se le permettre, de se dire « mais en fait, si, c'est possible ».
Et donc, du coup, à 120 euros par mois, c'est le ticket d'entrée ou bien après, c'est une question de pourcentage de chiffre d'affaires?
C'est un ticket d'entrée.
D'accord. Et donc, après, il y a des paliers, j'imagine, selon les services demandés.
C'est un accompagnement qui est quasi tous les 10 jours. Donc, vous avez un accompagnement très, très régulier à différentes phases de développement de votre projet.
Alors, vous avez dit que vous pouviez couvrir le territoire national. Donc, vous recherchez des experts dans quelle région et dans quel domaine, Milena
Absolument partout en France et y compris à l'international. Nous avons aussi des relations avec d'autres pays un peu partout en Europe, même aux États-Unis. Donc, on cherche des experts dans tous les domaines. On cherche aussi des business développeurs, ceux qui seront prêts à faire des démarches commerciales pour les entreprises qu'on accompagne. Donc, on cherche vraiment dans tous les domaines qui existent et qui peut répondre aux besoins des startups.
Alors, on va rappeler peut-être comment fait-on pour vous joindre dans ces cas-là, Milena?
Eh ben, très facilement, vous allez sur le site de IfStart et vous nous contactez. Sinon, adresse mail, c'est contact@if-start.com.
Tout simplement, voilà. Et donc, si vous voulez vous faire accompagner, et c'est important d'être en réseau ou de se faire accompagner, eh bien, Milena Stokovic vient de vous dévoiler comment ça se passe chez IfStart et vient de vous donner donc son adresse internet. Alors, Steve Ounponou, je vous vois hocher la tête depuis tout à l'heure sur les propos qu'a donné, les conseils qu'a donné Milena Stokovic. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Merci Florence. Enfin, déjà, je suis d'accord avec Milena et Pierre. Enfin, déjà Pierre, parce que la qualité, c'est ce qui est hyper important. La qualité de vie, c'est le bien-être à la maison, c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui, et c'est pour ça que je pense que on est dans un changement majeur. Ce que m'inspirent les propos de Milena, c'est que être entrepreneur, c'est dur. Moi, c'est ce que je dis tout le temps dans mes formations. Être entrepreneur, c'est pas facile, c'est un travail de longue haleine. Mais il faut être accompagné, il faut bien être entouré pour pouvoir le faire. Enfin, moi,
Expliquez-nous votre propre expérience.
Exactement. Merci. Alors, j'ai fait des études. J'étais à Cambridge, à l'université de Cambridge. J'ai un master en marketing du luxe, un MBA en finance. Donc, j'ai fait des études. J'ai travaillé dans le luxe. J'ai travaillé dans la mode. Et en fait, j'étais directeur commercial quand je suis parti en 2016 pour créer ma propre entreprise. Donc au début, quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai cru que ça allait être facile comme tout le monde. Et du coup, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je me suis entouré, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, il fallait une technique, il fallait apprendre et avoir une méthode pour pouvoir réussir. Donc cette méthode-là, je l'ai appris. Et en fait, on parle de vision.
Vous voulez dire que vous l'avez appris sur le tas et vous l'avez pas appris par ni vos premières expériences professionnelles ni vos études?
Mes expériences professionnelles m'ont appris des choses qui va être comment vendre, qui va être le marketing. Mais après, être entrepreneur, c'est beaucoup de palettes. Il faut être comptable, entrepreneur. Il y a énormément de choses en fait. Et donc du coup, ces choses-là.
C'est l'homme au couteau suisse.
Exactement, c'est l'homme au couteau suisse. Et en fait, il faut bien s'entourer, avoir les bonnes personnes, mais il faut savoir de quoi ça parle avant de s'entourer de ces personnes-là. parce qu'on peut perdre beaucoup d'argent. Moi, j'ai perdu 100 000 euros quand j'ai lancé mon entreprise. Et enfin, je pense qu'il faut savoir
ce qui n'est pas rien du tout.
Exactement. C'était mes économies. Et il faut savoir ce, je les ai récupérées depuis, hein. Mais il faut savoir se réinventer. Et donc, du coup, en fait, c'est la clé. Donc, moi, ce que je propose aujourd'hui, en fait, c'est ces méthodes que j'ai utilisées, ces méthodes que d'autres entrepreneurs ont utilisées, parce que du coup, à côté, j'ai une chaîne YouTube. On parlait de vision. C'est que j'ai eu la chance aussi d'avoir une vision, enfin, me mettre sur le digital. Et je vais répondre à votre question. J'ai la chance aujourd'hui de ne pas être frappé par la crise du Covid, et c'est ce que j'apprends aux personnes, parce qu'en fait, le digital,
c'est la clé de votre réussite.
Exactement, c'est la clé de ma réussite. On le voit aujourd'hui, enfin, avec les mesures du gouvernement, enfin, il y a une marque, enfin, qui a la part belle du gâteau, ça va être Amazon. Enfin, je veux dire, tout le monde va commander sur Amazon aujourd'hui. Les entreprises digitales, elles ont augmenté. En fait, il y a une étude de août suite. Il y a 304 millions de comptes Instagram qui ont été créés pendant le premier confinement, en mars 2020. Et en fait, parmi ces 304 millions de comptes qui ont été créés, il y a 33% des personnes qui utilisent toujours Instagram et qui vont sur les réseaux sociaux pour pouvoir commander ou voir des informations sur une marque. Avant, en fait, on allait sur Google pour faire des informations, pour rechercher des informations. Aujourd'hui, on va sur Instagram, on tape le nom de la personne et en fait, il y a la bio où on comprend tout de suite ce que la personne fait. Et moi, en fait, la vision que j'ai eue, c'est qu'en fait, déjà, j'étais sur Instagram depuis 2012, ce qu'on appelle un dinosaure d'Instagram. Aujourd'hui, je distille des formations sur Instagram. J'ai d'ailleurs été nommé par Air France comme étant meilleur influenceur africain en 2019. Moi, ce que je me suis dit, en fait, c'était que il fallait utiliser le digital, les réseaux sociaux pour créer une marque. Donc, en fait, par marque, j'entends toute personne peut être une marque. C'est-à-dire que moi, j'ai la marque Steven Ponon qui est moi-même. Et en fait, les formations que je distille aux personnes, j'ai ma marque de vêtements. Et aujourd'hui, en fait, j'accompagne des personnes, que ce soit des étudiants, des salariés qui ont envie de se créer un revenu complémentaire, des marques déjà établies ou des marques qui sont en train de se lancer. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne à réussir, à rêver plus grand et s'en sortir malgré les difficultés. S'en sortir malgré les difficultés, c'est ce que j'ai connu.
C'est ce que vous avez connu et donc c'est ce que vous proposez en formation sous votre propre nom, hein, c'est bien ça.
Exactement.
Alors comment ça se passe si on veut profiter de tous vos conseils? Quels sont quelques conseils peut-être que vous pouvez donner en direct par rapport à Instagram?
Alors, il y a énormément de conseils, je vous remercie. Enfin, déjà, faut savoir que moi, ce que je dis, c'est de ne pas se donner les excuses. Je suis arrivé en France à 14 ans. Je suis arrivé en France, au début, c'était pour jouer au football. Sauf que j'étais à Auxerre, j'ai eu un handicap qui a été décelé. Donc, je souffre d'une maladie rhumatismale qui s'appelle HLA-B27, qui est la spondylarthrite ankylosante. J'ai passé 2 années en fauteuil roulant, où je n'ai pas pu marcher pendant ces 2 années-là. Et donc, du coup, j'ai mon rêve qui a été brisé. Ensuite, du coup, j'ai découvert Yves Saint-Laurent, enfin, le créateur. J'ai voulu me lancer dans la mode, mais après j'ai fait mes études. Et en fait, après mes études, comme tout le monde, j'ai suivi un parcours où j'étais salarié. Et en fait, je gagnais très bien ma vie, mais j'étais pas aligné avec ce que je faisais. J'étais malheureux dans mon travail.
C'est-à-dire que quand vous sortiez le soir de votre bureau ou de l'entreprise, vous étiez pas content, pas heureux.
Exactement. En fait, si vous voulez.
Déprimiez, si je puis dire.
Oui, c'était clairement le cas. En fait, si vous voulez, j'ai passé 4 ans chez Coach. Je cite l'entreprise qui a fermé aujourd'hui. J'ai passé 4 ans chez Coach. Je suis passé de premier vendeur à directeur commercial France. Et en fait, du coup, je suis passé d'un salaire de 1800 à 10 000 euros en 4 ans. Mais en fait, c'était pas l'argent qui était mon problème. C'est-à-dire que je rentrais chez moi, j'étais déprimé, j'étais pas bien. J'étais pas aligné avec ce que je faisais. Je m'épanouissais pas. Et en fait, je travaillais de 7h à 22h et j'étais pas bien. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'était qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce que je voulais faire. Et ce que j'apprends aujourd'hui, c'est définir son why. En fait, moi, ma mission de
définir son why, c'est la première chose pour quelqu'un. C'est votre première recommandation.
Exactement. En fait, quand on veut lancer une entreprise, il y a beaucoup de personnes qui veulent dire oui, en fait, j'ai envie de gagner de l'argent. Oui, en fait, j'ai cette passion-là. Ou exactement, je sais pas ce que je fais, je vais être libre. Mais en fait, c'est savoir pourquoi tu veux lancer ton entreprise, en fait, et pourquoi tu veux lancer ton activité à côté. Donc, c'est définir ton why. C'est quelle est la mission? Pourquoi tu fais cette activité-là? Pourquoi ta marque? Donc, du coup, quand je parle de marque, c'est voilà, pourquoi ton projet mérite d'exister? Et en fait, ça passe par une authenticité. Donc, il faut vraiment être authentique parce que quand on est authentique, il y a des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous et on va fédérer une communauté autour de ces personnes-là pour pouvoir développer notre projet. Donc ça va être la première recette que je vais donner. En fait, Nike, ils vont utiliser... Nike est un modèle de business pour moi. Ils utilisent cette méthode-là. Nike ne vend pas des vêtements. Nike, ils vendent, en fait, un accessoire qui va vous permettre de vous sentir bien quand vous faites du sport. Apple, en fait, ils vendent une technologie qui est sexy. Enfin, la technologie, ça peut être difficile pour des personnes. Mais s'il y a autant de personnes qui vont acheter un iPhone 12 qui coûte 1 500 euros, c'est parce qu'en fait, ils appartiennent à une communauté qui trouve sexy. Nous, notre mission, en fait, c'est d'aider aider les personnes qui rêvent de s'en sortir à réussir malgré les difficultés. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés quand on est entrepreneur. Il y a beaucoup de difficultés quand on se lance. Il faut en être conscient. Il faut travailler, il faut le faire. Mais il faut savoir qu'est-ce qui nous anime. Moi, ce qui m'anime, c'est une qualité de vie.
Alors, justement, vous avez choisi pour, vous avez choisi juste uniquement le réseau Instagram, c'est bien ça?
Oui.
Pour développer votre propre entreprise. Pourquoi?
En fait, aujourd'hui, il y a 2 milliards de personnes sur Instagram. Donc, vous rencontrez, 2 milliards de personnes, c'est énorme. Enfin, je veux dire, si vous vendez juste un produit que vous ciblez les bonnes personnes à 1 euro, vous pouvez faire 2 milliards d'euros. On a choisi Instagram parce qu'en fait, 40% de nos ventes viennent d'Instagram. Et en fait, aujourd'hui, ça continue encore. Il y a la nouvelle génération qui naît. Enfin, moi, j'ai mon neveu par alliance, Baptiste, qui a 3 ans, qui a le téléphone de ses parents, qui sait beaucoup plus de choses que ses grands-parents, par exemple. Donc, en fait, il y a une génération qui utilise le digital, qui utilise le téléphone. Et en fait, Instagram, c'est vraiment la clé. Enfin, Instagram a démocratisé la photo et a démocratisé le métier. Toute société aujourd'hui, et je dis en fait la société qui se met pas sur Instagram, il se tire une balle dans le pied. Donc en fait, vous avez plusieurs techniques. En fait, déjà, il faut avoir un feed de qualité. Donc un feed, en fait, c'est les photos qu'on regarde sur Instagram. Il faut que tout de suite, on comprenne le message que vous passez. Donc si vous êtes entrepreneur, vous devez montrer votre environnement, ce que vous faites, que en fait dans les 9 photos on puisse comprendre tout ce que vous faites. Si vous êtes avocat, vous devez parler de votre mission en tant qu'avocat et montrer pour que les gens comprennent tout de suite cette mission là. Donc du coup, dans un premier temps, on définit le feed, quel message on va passer et on l'adapte à l'actualité, c'est-à-dire qu'en fait, il faut définir un feed éditorial. C'est-à-dire qu'en fait, vous préparez vos photos pendant 30 jours, donc en fait sur le mois de novembre par exemple, notez quels événements il y a et en fait, vous préparez ce calendrier là et tous les jours, il faut poster régulièrement avec les bons hashtags. En fait, les hashtags un hashtag avocat, par exemple. En fait, si une personne recherche un avocat pour le défendre et tape sur hashtag, il y a plusieurs personnes qui vont apparaître et donc, du coup, en allant dessus, il va pouvoir le voir. Et donc, en fait, c'est décrire votre activité, parler des besoins, que vos clients, que vos prospects, qui intéresseront vos prospects.
Alors pour vous, donc Instagram, c'est le réseau numéro 1. Est-ce que vous envisagez de vous développer sur d'autres moyens digitaux dans le futur? Quel est votre objectif pour vous personnellement, Steve Onponou?
Alors, le Instagram, c'est le réseau numéro 1, mais moi, je développe un réseau qui est le mien, donc du coup, c'est steveonponou.com, qui est ma base de mail, parce que comme je dis, en fait, Instagram, ça peut partir du jour au lendemain, mais ma base de mail, ça m'appartient à moi. Donc en fait, ce que je note en fait à ma communauté, ce qu'on apprend dans ces formations, communauté Instagram accélérée ou la formation pour créer sa marque, c'est que en fait, il faut utiliser Instagram pour se créer une communauté et rediriger cette communauté vers sa base de mail, parce que en fait, les mails, en envoyant des mails de façon quotidienne à une communauté, c'est en fait à partir de mails qu'on vend. Les gens, en fait, ils négligent la puissance d'un mail. Nous, quand on envoie un mail, en fait, dans une semaine, le nombre de personnes qui participent et qui achètent nos produits, c'est vraiment incroyable. Donc, en fait, c'est le prochain réseau qui est un réseau de tout temps que je dirais. Enfin, la première des choses qu'on regarde quand on achète un produit, c'est qu'on regarde son téléphone pour voir si on a reçu la facture. Et du coup, ça va être ça. Après, je suis sur YouTube, je suis sur les autres réseaux. En fait, il faut faire un cross, que j'appelle un cross-média. On apprend aussi dans la formation comment faire des cross-médias parce qu'il y a Facebook, il y a Pinterest, il y a Snapchat, etc. Mais pour moi, le réseau numéro 1, ça va être Instagram et utiliser Instagram pour se constituer une base de mails.
Alors Steve Onponou, si on veut suivre vos formations, en combien de temps ça se passe? Combien de temps dure l'accompagnement et combien ça coûte?
Alors en fait, nous on a développé deux formations en ligne. La première formation, c'est la formation communauté Instagram accélérée. Ce n'est pas cher du tout. Elle est à 200 euros. Et en fait, sur 200 euros, vous avez une série de 30 vidéos. Et 30 vidéos, ça dépend de la personne. Je pense que la personne qui a le temps pendant le confinement, qui a perdu son travail ou qui a beaucoup plus de temps, qui est beaucoup... 48 heures, vous pouvez regarder toutes les formations, ou si vous pouvez prendre le temps, semaine par semaine, par module, pour pouvoir voir les formations. La deuxième, c'est créer sa marque. Donc du coup, en fait, quand je parle de créer sa marque, c'est pas forcément une marque de mode, c'est de créer une marque autour d'une personne. Steve Onponou, c'est une marque. Black Hat Paris, c'est une marque. Apple, c'est une marque. Le boucher à côté qui a sa boucherie, c'est une marque. Pourquoi les gens iront chez ces bouchers plutôt que chez un autre? C'est parce qu'il aura créé une marque tout autour. Donc pour cette formation, elle est pas chère non plus. En fait, elle est à 2000 euros avec une possibilité de payer en 3 fois ou en 6 fois sans frais.
Vous faites un accompagnement complet finalement de la création ou du digital, si je puis dire.
Exactement.
Sur les réseaux sociaux en fait. Vous parlez dans votre développement d'entreprise, vous parlez de résilience. Pourquoi?
Je parle de résilience parce qu'en fait la résilience est la clé pour moi. Enfin, comme j'ai dit, en fait moi j'avais toutes les excuses pour pour échouer dans la vie. C'est-à-dire que je suis d'une famille, une bonne famille au Bénin, mais en fait quand je suis revenu en France, c'était pas du tout le cas parce que
vous avez découvert cette fameuse maladie, malheureusement pour vous.
Exactement, j'ai découvert cette maladie. En fait, j'avais des CFA, donc du coup une belle maison au Bénin. Je viens en France, enfin à Évry, dans la banlieue parisienne, où je découvre des personnes qui, enfin dans des cités, qui me regardent d'une façon un peu étrange, qui parlent un vocabulaire que je comprends pas. je développe une maladie qui me cloue au sol pendant 2 ans. Donc en fait, enfin c'est vrai que
surtout quand on a des espoirs de devenir joueur de foot, j'imagine qu'on tombe de haut.
Exactement, on tombe de haut déjà quand on vient pour réaliser son rêve et que bah déjà c'est pas facile. Les parents ne veulent pas qu'on parte parce que finalement mon père il voulait pas que je parte. Pour lui, être footballeur c'était un peu échoué. Donc enfin s'il fallait faire des études, mon père nous a toujours dit faut être cadre, faut réussir sa vie, faut avoir un bac plus 5. Donc déjà son fils, bah déjà j'y viens, il me dit ok donc tu le fais à fond. Donc là j'échoue dans cette première étape. Je me retrouve en banlieue parisienne, je m'exprime. En fait, des gens, ils me parlent un discours que je comprends pas. Ils me disent,
le langage
noir.
De la banlieue.
Exactement.
Vous ne le comprenez pas et
voilà.
Vous tombez dans un milieu que vous ne connaissez pas.
Exactement. Ils me disent, mais t'es noir, pourquoi tu parles comme ça? Je sais, mais comment je parle? Je m'exprime de façon normale, tout à fait par rapport à toi. Et donc, du coup, bah, ça, c'était une autre difficulté. Il a fallu m'exprimer. Il m'appelait le président parce qu'il disait que j'avais toujours.
Parce que vous aviez de la culture, vous étiez éduqué.
Exactement.
Et donc, on vous a appelé le président.
Exactement.
Carrément.
Donc, du coup, j'avais de la culture. Enfin, j'ai passé 2 années aussi dans ces. En rééducation avec une personne qui avait 80 ans, qui m'a beaucoup appris sur la culture française, qui me parlait de mode, de culture, d'histoire de la France. Donc, du coup, j'ai développé cette culture aussi. Et, après, j'ai fait mes études. Ben, après, j'ai un bac plus 8. J'ai des échecs. Mon premier job, chez Burberry, ça se passe pas bien parce que je suis trop jeune pour pouvoir avoir ce poste-là où je suis manager. Je me fais virer, en fait, au bout de 7 mois. Compliqué. Je continue. Je vais chez Cartier, ça se passe pas très bien non plus, où en fait je démissionne du jour au lendemain parce qu'en fait avec ma directrice marketing ça se passait pas bien et en fait heureusement je rentre chez Coach qui a été une très belle maison où j'ai évolué petit à petit. Qui la fin c'était moins bien que prévu. J'ai passé 4 années, mais à la fin j'étais plus aligné, non pas par la société mais parce qu'en fait il y avait c'est la même personne qui m'a viré de chez Burberry qui est venue chez Coach, qui était ma N+1. Lydia, je lui fais un coucou aujourd'hui, je la remercie parce que c'est grâce à elle que j'ai fait tout ceci. Et donc du coup, je me retrouve à dire en fait, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je continue en faisant mon travail, mais je ne suis pas aligné? Ou est-ce qu'en fait je me lance parce que j'avais toujours cette envie de me lancer? Je crée un business à côté et ensuite, dès que je vois que le business il fonctionne, je crée mon entreprise. En fait, c'est cette technique que j'ai fait. J'ai développé mon activité à côté à partir du moment où je savais que j'avais 2000 euros, ça me suffisait à payer mon loyer, à vivre de façon correcte. Au-delà de ce que je gagnais en tant que directeur commercial, je me suis dit, je quitte mon entreprise et je développe mon activité petit à petit avec une rupture conventionnelle, etc. Et c'est ce que, en fait, j'apprends dans mes formations.
Mais alors, en fait, vous êtes un multitâche, j'allais dire, parce que en même temps, en ce moment, vous écrivez un livre que vous pensez sortir au mois de janvier chez Duno, c'est bien ça, Steve Ounpounou?
Exactement, j'ai de la chance, j'ai eu beaucoup de chance parce que la maison Duno m'a contacté pour pouvoir écrire ce livre. Il s'appelle « J'avais toutes les excuses », donc il sort le 15 février 2021. Donc c'est croire en soi pour déjouer les obstacles. Donc du coup je raconte un petit peu tout mon parcours et c'est un témoignage où j'explique comment un noir immigré handicapé a pu le faire. Et comme je dis, si un noir immigré handicapé a pu le faire, il y a aucune excuse, personne ne peut le faire. Tout le monde peut le faire. C'est vrai que ce n'est pas facile. Je dis toujours, ce n'est pas facile, ça sera pas facile. Mais en fait, si c'était facile, ça serait trop simple.
Mais alors, si ça semble tellement facile quand on vous entend, vous êtes un bourreau de travail. J'imagine qu'il faut pas compter ses heures.
Au début, il ne faut pas compter ses heures. Enfin, aujourd'hui, je pense que je travaille, mais je travaille de façon intelligente et c'est ce qu'il faut faire, c'est travailler de façon intelligente. À partir du moment où on trouve son why, à partir du moment où on sait pourquoi on fait ça, en fait, on n'a pas l'impression de travailler. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est passer du temps avec ma femme et avec mon fils Gabriel qui est né il y a 2 mois.
Et, félicitations
merci
à vous.
Merci beaucoup. Non, mais en fait, je pense que quand on est passionné, on travaille de façon efficace. Mais il faut être accompagné. Il faut être accompagné parce que je pense que ces formations qu'on propose, c'est 10 ans de gagner. En fait, c'est 10 ans d'expérience. J'ai été influenceur depuis 2012. J'ai eu ce titre honorifique de meilleur influenceur en 2019. J'accompagne des personnes depuis 2019 pour créer leur projet. Il faut être accompagné, c'est la clé. C'est un ascenseur.
C'est un ascenseur, effectivement. Et alors, on va rappeler peut-être, Steve Unpunu, comment on fait pour vous joindre si on veut soit créer sa marque, soit se développer sur Instagram.
Pour créer sa marque, il faudrait aller sur la marque éponyme steveunpunu.com. Donc, je l'appelle parce que c'est mon nom, il n'est pas simple. Steve, c'est S-T-E-V-E-S. Unpunu, H-O-U-N-K-P-O-N-O-U.com. Et en fait, vous avez deux parties. Donc, vous avez une formation communauté Instagram accélérée à 200€ et créer sa marque. Sinon, contactez-moi tout simplement, contactez l'équipe plutôt, contact@steveshk.com.
Et alors, du coup, combien de personnes vous accompagnent dans cette aventure?
Aujourd'hui, en fait, on est 7. On travaille tous ensemble. Donc, j'ai une équipe de 7 personnes qui travaillent avec moi sur le projet. Je porte ce projet, je suis actionnaire majoritaire. Mais on a des experts en Facebook, on a des experts en création de sites web, on a des photographes, on a une personne en administration, on a notre cabinet de comptable aussi. On a des experts aussi en digital sur d'autres domaines qui travaillent avec moi pour ce projet.
Quels sont vos besoins pour vous développer pour le futur ? Alors, j'imagine que vous aussi, comme tout le monde.
Exactement, comme tout le monde. Alors, j'ai deux grands rêves. Donc déjà, un des rêves a été sorti, ce livre. Donc après ce livre, mon deuxième rêve, j'en parle dans le livre, c'est créer une académie de confiance en soi. Donc en fait, j'aimerais créer cette académie où on apprend aux gens à l'école à faire une formation. Moi, je vais apprendre aux gens à avoir confiance en elles. Et donc, j'aimerais rencontrer des investisseurs qui travailleraient avec moi sur ce projet pour créer l'école de la vie, l'école où, en fait, on apprendra aux gens à avoir confiance en elles. Donc, c'est comment avoir confiance, parce qu'avec la confiance, on peut soulever des montagnes, on peut faire beaucoup de choses. Donc, c'est mon accompagne. Enfin, c'est ce que je recherche. Le business plan, il est fait. Le lieu, on l'a déjà imaginé. On sait exactement où est-ce qu'on aimerait le faire. Mais il faudrait plus le développer et retrouver les personnes pour pouvoir développer ce projet-là. Et ensuite, le deuxième projet, ça va être la création d'une série sur une grande plateforme. J'aimerais raconter un peu ma vie sur une plateforme. Enfin, en tout cas, faire un témoignage de mon histoire sur une plateforme, Netflix ou autre, je ne sais pas encore. Mais c'est vraiment imager, expliquer en plusieurs séances comment je suis passé de ces difficultés.
Voilà, donc j'imagine un genre de série 10%, mais dans votre domaine.
J'adore cette série.
C'est ce qu'il faut vous souhaiter.
C'est exactement, je vous remercie.
C'est ce qu'il faut vous souhaiter pour le futur. Alors, je pense que Pierre Giraud, vous qui êtes directeur de la qualité, ça vous inspire? Ça vous inspire la vie de Steve, qui est tout jeune pourtant, hein, mais on a l'impression qu'il a vécu plusieurs vies dans toute son expérience.
Très clairement, en plus à titre personnel, je suis passionné par le football, donc je comprends le revirement que ça a dû être à un moment donné pour effectivement réorienter la carrière. Après, si je peux me permettre, en toute humilité et de tout cœur, France Qualité remet chaque année des prix aux entreprises ayant développé des initiatives, des projets particulièrement marquants, y compris bien sûr des TPE, des start-up. Donc, je ne sais pas, mais le cas échéant, vous serez les bienvenus.
Merci, adorable. Je vous remercie, Pierre. Un grand plaisir, c'est noté.
Alors, et ça vaut aussi pour Milena.
C'est gentil.
Voilà, donc vous pourrez tous les deux concourir à France Qualité. Alors, Steve Unpunu, dernière question. Vous dites être originaire du Bénin. Est-ce que vous avez le temps d'y retourner, d'aller revoir votre famille? Enfin, j'imagine qu'en ce moment, avec la pandémie, on ne peut pas trop voyager, mais auparavant, vous aviez encore le temps?
Exactement. En fait, on a créé une association aussi au Bénin. En fait, il faut savoir que
vous disiez que votre père n'était pas tout à fait d'accord à ce que vous veniez en France.
Maintenant,
Il est très content maintenant.
Il est très content. Mais il me dit toujours que c'est parce que j'ai fait des études que j'y suis arrivé. Il a peut-être raison, je ne sais pas. Mais c'est vrai, oui, en fait, au Bénin, j'y allais tous les 3 mois. Ben là, malheureusement, ça va faire plus d'un an que j'ai pas vu ni mon père ni ma mère qui habitent au Bénin. Donc c'est vrai que c'est triste. Enfin, surtout de voir que mon enfant, mon fils, il est né. Et, mes parents le voient pas grandir. Après, heureusement qu'il y a le digital encore. Il y a FaceTime où on peut appeler. Mais non, enfin, malheureusement, ça fait un moment que j'ai pas été. Mais on a créé une association qui s'appelle Action pour le Bénin, qui aide les enfants handicapés. Faut savoir que, ma maladie, ça touche 1% des personnes handicapées au Bénin. 1%, c'est beaucoup. Et en fait, ça touche aussi 1%, une population en France, c'est les gens qui sont bretons. Et au Bénin, c'est les gens qui habitent près du lac Aimé. Donc, du coup, en fait, faut savoir que c'est l'iode qui concourt à cette maladie. Donc en fait, on
vous
envoie.
Vous êtes allergique à l'iode.
Ça a créé, en tout cas, c'est une explication de lâcher la B27. Donc en fait, on envoie des médicaments au Bénin. En fait, on crée des dispensaires, ce genre de choses, et aussi on aide les personnes orphelines. Il faut savoir qu'en fait, il y a des personnes au Bénin, enfin les femmes, dès qu'elles sont en prison, elles vont avec leurs enfants dans le nord du Bénin en prison. Donc en fait, on fait en sorte de créer des orphelinats pour aider les enfants à grandir à côté de ces prisons, pour pouvoir quand même voir leurs parents. Donc ça me manque de pas y aller et pas les aider.
Ben on vous souhaite que les frontières se réouvrent bien sûr.
Exactement.
Très bientôt. On souhaite à tous d'ailleurs, hein, oui. Notamment on pense aussi à Air France, puisque Pierre Giraud, vous êtes directeur de la qualité. Enfin, en tout cas, merci beaucoup de votre présence à tous les trois à l'antenne, au bar de l'économie sur Radio IDFM, puisque notre émission s'achève. Vous pourrez la retrouver dès cet après-midi sur YouTube et sur notre nouvelle plateforme bardeleconomie.fr. À très bientôt, je vous embrasse, ciao ciao. Je vous retrouve mercredi, demain, logiquement, c'est Jacqueline Voraz.